Ok. Alors, le sujet que je propose ce soir, donc pour les personnes qui ont reçu le mail, c'est donc qu'il va y avoir bientôt la fête de Shavuot. Et à la fête de Shavuot, les sages ont institué de lire le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'une... l'histoire d'une Moabite, c'est-à-dire d'une non-juive, qui s'est convertie au judaïsme. Et pas seulement elle s'est convertie au judaïsme, elle s'est mariée avec Boaz, en français c'est Boaz, pour les lecteurs ou lectrices de Victor Hugo, dans La Légende des siècles, vous avez sûrement lu, et par cœur, n'est-ce pas, Boaz endormi. N'est-ce pas? Bien. En tout cas, donc, pas seulement que cette étrangère s'est convertie et devenue juive, mais elle s'est mariée avec le grand maître de l'époque, le juge, le chofet. À l'époque, il n'y avait pas de roi, mais l'équivalent du roi, c'est ce qu'on appelle le chofet, qui s'appelle, il avait plusieurs noms, Boaz, en français c'est Boaz, et Iftsan, dans le livre des juges, on l'appelle, il est appelé Iftsan. Donc c'est un des, si vous voulez, l'équivalent du roi juif de l'époque. Et son arrière-petit-fils, c'est David. Et c'est étonnant que les sages aient institué de lire ce rouleau, la Megillat Ruth. Dans l'année, il y a, sont instituées la lecture de quatre Megillotes. Ouais. Il y a cinq Megillotes. À Purim, Megillat Esther. À Pessah, Shir HaShirim. À Shavuot, Megillat Ruth. Le 9 Av, Echa, les lamentations de Jérémie. Et à Sukkot, s'est institué de lire Kohelet, l'Ecclésiaste. Et si les sages ont institué de lire tel rouleau à tel moment, il y a une intention profonde à cela. Pourquoi les sages ont-ils institué de lire le rouleau de Ruth à Shavuot? Et d'ailleurs, on peut remarquer que le passage dans la Torah qui relève le don de la Torah s'appelle la Parashat Yétro. Parashat Yétro, donc qui est Yétro? Yétro, c'est un non-juif, c'est quelqu'un qui n'est pas né juif et qui a rejoint le peuple juif dans le désert et qui s'est converti, qui est devenu juif. Alors, comment dire? C'est étonnant aussi que le passage dans la Torah qui traite du don de la Torah s'appelle au nom, on appelle en français d'un prosélyte, et à Shavuot, Zman Matan Toratenu, le moment du don de notre Torah, les sages ont institué de lire l'histoire d'une prosélyte. Quel est le message? Quel message? Alors on va dire, oui, le message universel du judaïsme. Mais on sait bien qu'on n'est pas une tradition prosélyte. Alors c'est bizarre quand même tout ça. Je ferme mon appareil insupportable. En passant, on peut voir, c'est un Blackberry. C'est essentiel, toujours un peu frimé. Alors, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que c'est bizarre. Comment ça se fait que les moments clés qui rappellent le don de la Torah, tac, on parle des convertis, on parle des prosélytes. Or, dans la vie juive, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il y a quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, on sait que c'est pas sympathique. Il vaut mieux dire à cette personne, cherche autre chose. Deviens bouddhiste. Souvent, les gens qui viennent me voir, je dis, allez ailleurs. qui viennent pour se convertir. Allez ailleurs. Qu'est-ce que vous cherchez dans le peuple juif? C'est chercher des problèmes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un vient se convertir et il faut le renvoyer. Alors, ça ne va pas. Bizarre. C'est bizarre. Bon. Alors, comment aborder cette question? Et spécifiquement, comment aborder la question pourquoi les sages ont institué de lire le rouleau de Ruth à Shavuot? Alors, Ruth venait du peuple des Moabim, les Moabites, qui sont le peuple de Amon et Moab. Il y a deux peuples, Amon et Moab, qui sont des descendants des enfants que Lot a eu avec ses filles. Lot, donc neveu d'Abraham, à un moment, il croyait, après la destruction de Sodome et Gomorre, que l'humanité avait été détruite, et il est allé, donc, pour reconstruire le monde avec ses deux filles, et il a eu deux enfants qui sont à l'origine de deux peuples, Amon et Moab. Amon et Moab. Bien. Au fil des temps, il y a eu des tribulations avec Amon et Moab, en cela que lorsque les enfants d'Israël, bien plus tard, à la sortie d'Égypte, au bout des 40 ans dans le désert, ils s'approchent de la terre de Canaan, pour aller vers la terre de Canaan, il fallait traverser le pays d'Amon et Moab. Moïse envoie des émissaires en disant, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Et Amon et Moab, on dit non, ils sont partis faire la guerre contre les enfants d'Israël. Et plus que ça, Balak ben Sippor a payé Bilam pour maudire le peuple juif. Qu'en vérité, les enfants d'Israël ne demandaient simplement que de passer. À la suite de ça, la Torah nous dit que quelqu'un de Moab ne pourra pas rentrer dans le peuple juif. Nous allons voir les versets. On prend des chumash, il y a des chumash derrière. Vous prenez des textes. Alors, oui. Bien, c'est dans Devarim, dans le Deutéronome, Parashat Kitetsé. C'est dans cette édition, page 328. Alors, le verset dit, chapitre Kaf Gimel, verset d'Alet, donc c'est-à-dire chapitre 23, verset 4, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekalachem, vous y êtes? 328, c'est bon? 328. Il y a 3, 2, 8. Bien. Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekalachem, ne viendra pas l'Amonéen, ou le Moabéen, ils disent en français Ammonite ou Moabite, il ne viendra pas dans l'assemblée de Dieu, Gam d'or à Syrie, lo yavo la'em bikalachem, aussi la dixième génération ne viendra pas dans l'assemblée de Dieu, Adolam éternellement. Alors, que signifie ils ne viendront pas dans l'assemblée de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Ils ne viendront pas dans l'assemblée de Dieu. Alors, dans cette édition, vous n'avez pas le commentaire de Rashi, mais je vous rapporte le commentaire de Rashi qui rapporte le Talmud dans le traité Yevamot et dans le traité Kiddushin, qui disent la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire venir dans l'assemblée de Dieu ? Venir dans l'assemblée de Dieu signifie que même s'il se convertit, qu'il devient juif complètement, mais il n'aura pas le droit d'épouser une femme née juive. Il aura le droit d'épouser, une convertie de Amon ou Moab. Il aura, mais pas une femme née juive. Il aura le droit d'épouser une femme convertie, par exemple. Une femme convertie, c'est-à-dire le pas une forcément d'Amon ou Moab. Je ne sais pas, une Indien Apache qui se convertit, qui devient juive. Elle a le droit d'épouser quelqu'un de Amon ou Moab qui s'est converti. C'est bon ? De la même manière, un peu plus haut, verset, regardez la page d'avant. Le verset 3 en bas de la page. Lo yavo mamzer bikal Hashem. Gam d'or à Syrie, lo yavolo bekal Hashem. Ne viendra pas le mamzer dans l'assemblée de Dieu. Même la dixième génération ne viendra pas dans l'assemblée de Dieu. Alors, le mamzer, vous voyez dans la traduction, c'est écrit l'enfant illégitime. C'est-à-dire, un enfant né d'adultère ou né d'inceste a un statut difficile dans le peuple juif. C'est un statut difficile. Bien. Cette personne a une restriction. Elle ne vient pas dans l'assemblée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, elle ne vient pas dans l'assemblée de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire, elle ne vient pas dans l'assemblée de Dieu ? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne compte pas dans le minyan ? Est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas juive à part entière ? Si. Elle est complètement juive. Elle a une restriction, elle n'a pas le droit, cette personne n'a pas le droit d'épouser une femme née juive. Cette personne a le droit d'épouser un converti, par exemple. Un converti est juif à part entière, mais ne s'appelle pas Assemblée de Dieu. Kalachem. Assemblée de Dieu, c'est quelqu'un né juif. C'est la seule restriction. Seule restriction. De la même manière, le Ammoni ou le Moavi, alors le Mamzer, en vérité, c'est homme ou femme. Homme ou femme. C'est-à-dire qu'une femme qui est Mamzer n'a pas le droit d'épouser quelqu'un né juif. Mais quelqu'un, par exemple, qui est converti, ou quelqu'un qui est dans son cas de Mamzer, c'est permis. Mais à part ça, ils ont tous les statuts du juif. Ils comptent dans le Minyan, etc., etc. Ça, c'est pour le Mamzer. Pour le verset 4, c'est écrit « Ne viendra pas le Ammoni ou Moavi dans l'assemblée de Dieu. Aussi, la dixième génération ne viendra pas pour eux dans l'assemblée de Dieu. » Alors, ça veut dire que quelqu'un d'Ammon et Moab se convertit. Cette personne est juive à part entière. Mais, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un des juifs. Et même ses enfants, cette restriction restera pour les enfants. Comment ?
Pourquoi pour les enfants ?
Alors pourquoi pour les enfants ? Je sais pas moi pourquoi Dieu il a décidé pour ça, comme ça. Non, excusez-moi, vous commencez à me connaître. Hein ? Qu'est-ce que moi je veux en faisant un cours ? Je vais expliquer un petit peu ma méthode. Je vais un peu expliquer qu'est-ce que je veux dans mes enseignements. Un de mes maîtres disait comme ça. La Torah, c'est un éléphant. Et nous, on est un moustique. Et nous, on a faim. Et on va piquer l'éléphant. Pour se nourrir. On va prendre une toute petite goutte du sang de l'éléphant. Une toute petite goutte. Et ça va nous suffire. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu ça, quand on étudie. On va étudier En vérité, ce qui m'intéresse plus que le texte biblique, c'est comme vous l'avez remarqué, c'est plutôt le Talmud. Le Talmud va nous donner des entrées qui va être la petite goutte. Mais c'est sûr que quand on étudie, il y a 100 sujets que moi, je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Dieu a décidé comme ça? Franchement, j'en sais rien. Il faut lui demander. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va essayer, à travers tout ce qu'on ne peut pas comprendre, de se nourrir quand même avec des points précis. Voilà. Pourquoi Dieu a décidé comme ça? Peut-être dans la suite, ça viendra. Mais regardons quand même néanmoins, la suite des versets nous explique un petit peu. Regardons. Lo yavo amoni ou moavi bekal Hashem, ne viendra pas l'ammonite ou le moavite dans l'assemblée de Dieu. Donc l'assemblée de Dieu signifie épouser une femme née juive. Et si cette personne a transgressé, son enfant gardera les mêmes restrictions. C'est rigoureux, c'est des restrictions contraignantes. Donc vous comprenez que quelqu'un qui vient du peuple d'Ammon et de Moab, qui se convertit, il y a des problèmes quand même, c'est pas tellement sympa, quoi. La Torah n'est pas tellement sympa par rapport à ça. Bien. Où c'est Ammon et Moab aujourd'hui? C'est la Jordanie. D'ailleurs, la capitale s'appelle Amman. Amman, ça vient de Ammon. Alors, le Talmud dit, dans le traité Yevamot, qu'aujourd'hui, tous les peuples ont été mélangés. On ne sait pas qui est d'Ammon, qui est de tel peuple, qui n'est pas de tel peuple. Donc, si par exemple, un Jordanien se convertirait aujourd'hui, il n'aurait pas ces restrictions. Il n'aurait pas du tout ces restrictions. Ça, c'est à une époque où les peuples sont stables, comme ça l'était avant l'empereur assyrien Sennachérib, Sargon. C'était un empereur assyrien qui avait mélangé tous les peuples, et depuis, on ne sait pas qui est de Ammon, qui est de Moab, qui était le peuple, qui était le peuple. Voilà. Bien. Continuons. Le verset, finalement, va nous dire pourquoi il y a ces restrictions. Al-Devar. Asher lo kidmu etrem ba lechem u ba mayim ba derem et setrem im mitzrayim va asher sachar alecha et bilam ben beor me petor aram na raim le kal le ka. Pourquoi y a-t-il finalement ces restrictions sur le fait qu'ils ne sont pas allés à ta rencontre avec du pain et de l'eau en voyage quand vous êtes sortis d'Égypte? C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient dans le désert, aller aux confins d'Ammon et Moab. Et le verset dit, ces gens d'Ammon et Moab, ils ont des mauvais caractères. Ils avaient des voyageurs, un peuple qui venait à côté, ils auraient dû leur proposer des canettes fraîches, quelque chose à manger, du pain, de l'eau. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé Bilam l'impie, de Padan Aram, de Peor, de Aram Naraim, pour te maudire. Donc vraiment, ils sont hargneux. Ils ne sont pas des gens généreux. Le Midrash dit qu'ici, il y a quelque chose de, vicieux, profond dans ce peuple. C'est la non-générosité. Le Talmud dit, c'est vrai que les enfants d'Israël, dans le désert, ils avaient la manne, tous les jours ils avaient une nourriture céleste, ils avaient le puits de Myriam qui les accompagnait, ils avaient de quoi boire, mais quand même, ils sont en voyage, ils sont éreintés, tu peux être sympathique, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin, mais c'est pas parce qu'il n'a pas besoin, que ce peuple n'avait pas besoin, que tu aurais pu être ouvert, sympathique, souriant par rapport à ces gens-là. Non, au contraire, tu as été agressif. On apprend de là que la tzedaka n'est pas seulement pour les pauvres. Tu as des gens, ils ont tout ce qu'il faut, comme on dit. Oh, lui, il a tout ce qu'il faut. Tu as vu les vacances qu'il s'est payé? Il est allé à un Pessar de ouf. Tu as vu le prix du Pessar qu'il s'est payé? Mais ils ont tout ce qu'il faut. Non, ok, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont tout ce qu'il faut qu'ils n'ont pas besoin de chaleur humaine. Et bien c'est ça, les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, disons, ils avaient tout ce qu'il faut. Ils auraient pu, les gens d'Amon et Moab, être sympathiques néanmoins à leur égard. Au contraire, ils ont été méchants à leur égard. Ils ont payé Bilam pour les maudire. Et là, il y a une dureté, et cette dureté est sanctionnée. On voit d'ici, le Talmud dit dans le traité Yevamot, que dans le peuple juif, il y a des signes distinctifs dans le peuple juif. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Il y a dans le peuple juif des qualités, ces qualités, Rachmanim, sensible à la souffrance d'autrui. Là, il y a une insensibilité. Ils ont été insensibles. Cette insensibilité sanctionnée. Alors, mais se convertir, c'est bien, sois sympa avec. C'est bizarre. Non, sanctionné. D'autre part, Rachmanim, Baishanim, le Talmud dit que c'est une qualité, c'est que dans le peuple juif, d'être pudique, d'avoir honte facilement. Et troisième chose, Gomle Chassadim, généreux. Et là, dans Amon et Moab, il y a un défaut, c'est qu'ils ont été insensibles et ils n'ont pas été généreux. Et ça, c'est structurel, important, sanctionné. Ok. Ça, alors maintenant, venons à l'histoire de Ruth, et je vais vous raconter des belles histoires, je vais vous passer des photocopies. Comment ? Alors, ça va être ça le sujet. Très bien. Alors là, je vous passe une photocopie. Du chapitre 17, de la fin du chapitre 17, de la première partie du livre de Shmuel, du livre de Samuel. Alors, je n'ai pas fait des photocopies de tout le chapitre, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe. Le premier roi du peuple juif, c'était le roi Shaoul. Bien. Shaoul venait de la tribu de Binyamin et est présenté dans la tradition comme quelqu'un de très tzaddik, de très juste, qui avait des très très bonnes qualités. Mais le roi Saül, rapidement, a fait une grande faute, c'est que Dieu lui avait demandé d'exterminer l'Amalécite. Il ne l'a pas fait. Le prophète Shmuel va voir Shaoul en disant, Dieu retire sa royauté et va donner votre trône à un meilleur que vous. Un meilleur que moi. Et à partir de ce moment-là, il a été extrêmement angoissé. Il avait des crises d'angoisse, Shaoul, des crises d'angoisse terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Clandestinement, Dieu dit à Shmuel, va chez Ishaï. J'ai vu parmi les enfants de Ishaï quelqu'un qui deviendra pour moi roi. Et voilà, le prophète, clandestinement, parce que si le roi avait entendu qu'on allait nommer un nouveau roi, il allait faire des représailles. Alors qu'est-ce qui se passe? En cachette, le prophète Shmuel va chez Ishaï, et Ishaï amène ses fils. Il a compris, Ishaël, qu'est-ce qui se passe. Il amène ses fils. 7 fils. Le prophète voit un fils après l'autre. Un fils après l'autre. Le premier, ah, peut-être c'est lui qui va être le prochain roi. Dieu dit, c'est pas lui. Deuxième, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Quatrième, c'est pas lui. Sixième, c'est pas lui. Septième, c'est pas lui. Alors, le prophète dit à Ishaï, est-ce que tu as encore un fils ? Ouais, j'ai un fils. David ! David ! Oh, ouais, est-ce qu'il est celui-là ? David ! T'arrives, on t'appelle ! Et voilà, il y a David, il arrive, il était avec le troupeau. Son père, il le jetait. Bon, pourquoi il le jetait ? Vaste histoire. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh, on a dit dans le Hallel, Even Maasua Bonim Aïta Le Rosh Pina. La pierre que les constructeurs rejettent, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle tout se construit. Ben, David, il était laissé pour compte. Et en vérité, il arrive, et même Shmuel a été paniqué. Pourquoi Shmuel était paniqué là, est-ce qu'il y a des comment? C'est mignon, vous, qu'est-ce que vous avez des problèmes? Comment? Non, mais ça a à voir avec ça.
Ouais, c'est... Non, il était
quoi?
Pas faible, mais il avait l'air très fragile.
Oui, alors, jeune, fragile, vous? Ouais. Quoi? Ah, il était dissipé. Non, mais il était jeune adulte. Hein, il était jeune adulte. Alors, le verset dit, et on va le voir, il était admoni. Il était rougeau. La traduction précise, c'est rougeau. On traduit souvent, comme vous dites, rouquin. Il était peut-être rouquin. Mais la traduction précise, admoni, c'est rougeau. Rougeau, ça veut dire, excusez-moi l'expression, une tronche violente. Un regard furibard. Il est comment ? Mais je ne vais pas dire rouquin, moi. C'est vous, vous avez un problème avec... Il était sûrement rouquin, mais ce n'est pas ça le point. Le point, il était admoni. Admoni, ça veut dire rougeau. Moi, j'appelle ça, même si je peux oser dire, coupe rosée. Vous voyez un peu ? C'est... Je sais pas, moi, je ne suis pas tout à fait comme ça, alors je ne sais pas. C'est... Vous voyez les buveurs de bière ? Les hooligans, quoi, vous voyez un peu le style, c'est un type violent. Et quand le prophète Shmuel l'a vu, il a eu peur, il a dit qu'il ressemble à Ésaü.
Mais Admoni, c'est pas
Adam. Ouais, il est rougeau, ça veut dire violent, c'est un air furibard. Il a dit, mais c'est Esav, c'est Ésaü. Dieu lui a dit, non, regarde, il a des beaux yeux. Il mieux fait Enaïm. Il a des beaux yeux. Il a une pureté dans son regard. Il a une pureté dans le regard. Ce que le Talmud dit, c'est un tueur, mais avant de tuer, il demande, est-ce que c'est une mitzvah de tuer ? Il ne tue pas comme ça. Il tue si c'est une mitzvah de tuer. Mais c'est un tueur. Hein, c'est une version, c'est pas la version... Mais, c'est la version du texte. Hein. C'est comme ça que les sages expliquent le verset. Bien. Alors, Dieu dit à Shmuel, lève-toi, c'est lui, et il l'a loin. Mais il l'a loin de manière clandestine. Personne, sauf Shmuel et Ishaï, savait qu'il a été loin comme roi. Ok. On passe. Une deuxième scène, Moi, j'attends quelqu'un qui fasse un film là-dessus, mais selon l'explication des sages du Talmud. J'adore ce truc-là. C'est sublime, sublime ce passage. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Shaoul, Dieu m'a évincé de la royauté. Et il a des crises d'angoisse. Il a des crises d'angoisse. Il est des crises de dépression. Le roi, qui est encore officiellement roi, bien que Dieu ait enlevé sa bénédiction, qui est officiellement roi, a des crises d'angoisse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Doeg, dit « Sire, je connais un fils de Ishaï qui joue très très bien de la musique. Un fils de Ishaï qui joue très bien de la musique. » Et je crois que, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Essayez, il va vous jouer de la musique, ça va vous détendre. Et qui était ce joli petit musicien ? David. Oh, c'est incroyable. Alors là, c'est la scène invraisemblable. Il va y avoir Shaoul avec ses crises d'angoisse. David, le petit David, avec la harpe. L'ancien. Et le postulant qui a été oint par le prophète, que personne ne sait, c'est un huis clos terrible. Et Shaoul, il sent ça. Mais d'un autre côté, la musique de David lui fait du bien. Et le verset dit qu'il a aimé passionnément David. Il a eu une affection profonde pour ce jeune musicien. Une affection profonde. On change de scène, troisième scène. Il y a la guerre avec les Philistins. Un très très grand méchant. Très grand méchant. Les Philistins sont très méchants. Et ils amènent un héros super méchant, Goliath. Waouh ! La deuxième fois, Chana, la deuxième fois. Waouh ! Un super méchant. C'est Conan le barbare. Conan le barbare. Le super méchant. C'est le super méchant. C'est Goliath. Goliath, c'était un géant atroce. Il arrive. Wouah ! Il arrive, il dit, machin, il dit, vous êtes un peuple de lâches. Envoyez un héros pour se battre à armes égales contre moi. Et si vous ne le faites pas, vous êtes des poules mouillées, vous ne valez rien, vous êtes le peuple de Dieu, c'est la rigolade. Ils ont peur, c'est horrible, c'est terrible. Voilà. Et il n'y avait que les grands frères de David qui étaient à la guerre. Ok, je passe des trucs. Ishaï envoie David avec, il envoie David avec une galette, un petit pot de beurre. Non mais c'est presque ça le verset, ouais. Pour donner à ses grands frères qui sont au front. Et David, il arrive là-bas et ça va, Hana, on peut refaire, ouais. C'est bon. Waouh ! Et il y a Goliath qui arrive. Et David, il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, on a très peur de lui. Il dit quoi, très peur de lui ? Mais amenez-moi chez. Et celui qui tue Goliath, qu'est-ce qu'il a ? Le roi lui a promis la main de la princesse, la main de sa fille. Pas mal. Allez, on y va. Amenez-moi chez le roi. On y va, c'est bon. Il y va. Il va chez le roi. Et le roi lui dit, mais David, mais c'est pas possible. C'est lui, depuis son enfance, il est entraîné pour le combat. Et toi, t'es un petit berger. Qu'est-ce que tu fais là ? Et maintenant, on va lire les versets. Suspense. Ou alors, la semaine prochaine, si vous voulez. Alors, regardons les versets. Donc, je crois que ça a été photocopié. En haut, ça a été coupé. C'est le chapitre Yudzaïn, 17. Ve'aya, verset Memchet. Vaya, regardez, je lis des versets qui ne sont pas dans le cœur du sujet que nous allons voir, mais comme c'est des passages peu connus, c'est peu connu, malheureusement, je les prends, je me permets de les prendre, c'est tellement beau, je trouve ces versets sublimes, donc je les prends, même si ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet va venir ici. Verset Memchet. Vaya, qui kam apelishti, va yeler, va ykrav, likrat David. Va yemaer David, va yarotz amaracha, likrat apelishti. Ce fut, quand s'est levé le Philistin, il alla, s'approchant dans la direction de David, et David courut. David s'est dépêché et courut vers le front en face des Philistins. Le Metzula David explique ici, vers le front des Philistins, en face du Philistin de Goliath. Vers ces mêmes têtes, « Vaishlar David et Tiado et la Keli, Vaikam Isham Even, Vaikala, Vayar et à Pelishti à El Mitzro, Vatidba à Even Be Mitzro, Va Ipol al Panav Artsa. » David lança sa main dans la poche, il prit une pierre, il lança avec le lance-pierre, il a frappé l'Égyptien sur son front, la pierre s'est fichée dans son front, il tomba sur sa face à terre. Est-ce que le verset est normal ? Est-ce que c'est normal ? Ça va ? Ça va ? Bon, évidemment, si je pose la question comme ça, c'est que ce n'est pas normal, évidemment. Mais je reprends. Verset même tête. Il lance le lance-pierre. Donc, c'est vous laissez comme ça. Oui. C'est pas une fronde, hein. C'est pas une fronde. C'est un lance-pierre. Vous connaissez la différence entre une fronde et un lance-pierre ? Lucien, explique. Comment ? Non ? Voilà, c'est-à-dire, la fronde, c'est comme ça. C'est la fronde, c'est quand j'étais gosse, il y avait Thierry la fronde. Thierry la fronde, hein? C'est... Ça, c'est la fronde, ça tourne. Tandis que le lance-pierre, c'est comme ça. Lance-pierre. Voilà. Donc. Donc, Vaïkar Misham Even, il a pris une pierre, Vekala, Ikala, c'est le lance-pierre. Tchlak, il a frappé le Philistin sur son front, la pierre s'est enfoncée dans son front, Vaïpol Alpanav, il est tombé sur son visage. C'est pas normal. Il doit tomber en arrière, évidemment. Imaginez, en balistique.
Non, pas du tout. Pourquoi ? Justement, balistique, il reçoit le choc, il meurt, pas par la violence du choc, mais par l'endroit où c'est arrivé, il meurt et ensuite il tombe. Non, mais c'est vrai, je sais pas, vous regardez pas les je sais pas.
Bon. Ah voilà, là ça commence à être bon, là. Ça c'est l'étude de la Torah, là. C'est... Là il y a du. Comment dire ? Il y a. Là il y a quelque chose, il y a du. Il y a un cinéaste, Samuel Fuller. Il dit, un vrai film de guerre, pour qu'il y ait un bon film de guerre, il faudrait que derrière l'écran, il y ait deux personnes qui tirent deux balles dans la salle. Pour qu'on sente vraiment le truc. Je veux dire, on est là, on consomme, on a la glace, les pop-corn. Mais t'es pas dans, tu vis pas la chose. Là, vraiment, il faut le vivre. C'est pour vivre la chose, il faut voir. Il y a la pierre. Non, c'est le choc. C'est le choc. Rashi relève, il aurait dû tomber en arrière. Regardez le commentaire de Rashi. Vaipol al-Panav. Lo ayalo lipol el alachorav. Share al mitzro uka. Il n'aurait pas dû tomber seulement en arrière, parce qu'il était frappé sur le front. Et là, kede shelo itzdaer, David l'éler l'artor et trocho. Shenistaker David archav, shne masa ramot uzrataim. Shekumato, sheshamot vazeret, nistaker melo kuma l'arurav, ou melo kuma le fanav. Comme Goliath faisait 16 coudées et zeret. Zeret, c'est un doigt. Il faisait 16 coudées, il faisait 6 coudées et un doigt. Une coudée, c'est 60 cm. 6 fois 6, 36 et 5. Donc ça fait 3,65 m. Pas mal. Hein? C'est pas mal, Goliath. Donc, le verset dit, comme ça, David, pour arriver, pour couper la tête de Goliath, il a gagné deux fois 3,65 m. Comment ? Parce que si on voit les versets d'avant, en vérité, il y avait le front des Philistins, c'était une colline. Le front d'Israël était une colline. Et au milieu, il y a un gué, un petit ruisseau. David, il arrive du front des Juifs. Il prend les pierres au fond du ruisseau, il monte vers le front des Philistins. Donc, là, s'il tombe en arrière, il tombe comme ça, sinon il tombe en avant. Mais comme lui, il fait 3,65 m, s'il tombe en arrière, oui, ça va être 3,65 m multiplié par 2. Là, s'il tombe en avant, il gagne deux fois 3,65 m. S'il tombe comme ça, ça sera la tête de Goliath. S'il tombe en avant, il gagne deux fois la hauteur de Goliath, plus une fois la hauteur de Goliath. Tandis que si c'est en arrière, c'est deux fois plus long. C'est bon ? Peut-être je ne m'explique pas bien.
Il y a un fossé devant.
Non, il n'y a pas de fossé.
C'est David qui fait 3 mètres.
Non, David, il fait, je sais pas moi, 1m80, 1m65, je ne sais pas combien il fait. Oui. Voilà, regarde. Il est là. S'il tombe comme ça, alors s'il tombe comme ça, la tête est là. Mais s'il tombe en avant, c'est la grandeur, la hauteur de Goliath, plus encore la hauteur de Goliath. Ça fait deux fois. Donc,
c'est ça qu'on fait.
Bah, parcourir, c'est ça. Donc, ici, il y a eu un genre de salaire, dit Rashi. Dieu a fait ça pour épargner à David ce chemin. Comme ça, dit Rashi.
Mais c'est-à-dire qu'il devait lui couper la tête pour le tuer, pour l'achever,
ou non, il est mort. On va voir dans la suite. Certaines scènes sont un peu violentes, j'avoue.
Hein? Alors. Non, pourquoi épargner 3 mètres, c'est pas très long, c'est pas très grand. 3 mètres 50, c'est pas très grand. L'affaire, c'est que c'est 4 pas, 3 pas, quoi.
C'est vrai, alors pourquoi nos mètres 10
ça?
C'est
un peu le petit clin d'œil. Vous savez, une fois qu'il est mort, il est mort.
Faut dire qu'HM.
C'est un peu le petit clin d'œil d'HM, même si c'est pas un effort sur Dieu de faire 3 mètres, mais il lui épargne ça.
C'est le petit clin d'œil. C'est comme le miracle de Hanouka, le miracle de Hanouka. Nous, on fait tout un truc. Vous connaissez Hanouka? Les beignets, les trucs. Bon, Hanouka, ouais, Hanouka. Il y a eu une fiole à l'intérieur du temple qui a duré 7 jours au lieu d'un jour. C'est un miracle, mais comme vous dites très bien, c'est un clin d'œil. Là, ici, tu pourrais dire, finalement, c'est un peu comme la lumière de Hanouka. Tu peux dire, bon, il a gagné Goliath. Il a vaincu Goliath. Très bien, David. Goliath, c'est un homme de guerre. C'est vraiment très, très méchant. Le super méchant. Et David, un berger. Un berger, quoi. C'est pas un pianiste classique. C'est un berger. Il joue de la musique, mais c'est un berger. Bon. mais ça n'a rien à voir. Bon, il a réussi à tuer Goliath. Mais là, il y a eu, je ne peux pas dire mieux que ce que vous dites, un clin d'œil. Dieu a fait un, je suis avec toi. Il y a une présence à l'intérieur de quelque chose qui, somme toute, tu pourrais dire, c'est extraordinaire, est-ce miraculeux ? Dieu dit, il y a quelque chose. Il y a un petit miracle. Subtil, subtil. Il y a un miracle subtil.
Un clin d'œil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir la présence de Dieu avec ça ?
Mais subtil, pas... C'est pas un miracle grandiloquent, mais il y a...
On est là.
On est là, voilà.
Donc c'est pas un miracle qui a été fait pour que tout le monde s'en rende compte.
C'est ça, c'est subtil. Voilà, c'est subtil. Souvent, les miracles, et c'est quelque chose dans notre existence aussi, les miracles, si on regarde dans notre existence, nous avons des miracles extraordinaires dans notre existence. Mais le miracle, c'est pas que ce dictaphone va se transformer en bouquet de roses. Ouais. Non, ce dictaphone, c'est un dictaphone. Mais néanmoins, il y a des miracles subtils. Mais il y a des miracles. C'est un regard sur l'existence. Continuons.
Et juste, il a fait en quoi son enfer pour défendre un enfant ?
Très simple. C'est, d'ailleurs, le verset suivant va dire. Vayechezak David mais la pelishtim ba kela ou ba even. Vayar et apishti vayomiteu vecherev en beyad David. David a vaincu le Philistin avec le lance-pierre et la pierre. C'est-à-dire avec des choses très très simples. Il a frappé le Philistin, l'a tué, et de glaive, il n'y a pas dans la main de David. Le glaive, l'épée, il n'y a pas dans la main de David. Très important, puisque je vous avais dit que dans David, il y a quelque chose qui ressemble à Ésaü. Or, la caractéristique d'Ésaü, c'est l'épée. Al-harbecha tirye, sur ton glaive tu vivras. L'épée et la puissance de Ésaü. Non, il n'a pas d'épée. Goliath.
Donc c'était le chef des Philistins.
C'est pas le chef, c'est le champion. C'est le champion des Philistins.
Et donc quand il a le front a touché, c'est celui de Goliath.
Goliath. Verset suivant. Vayarots David, vayamod et la pelishti, vayikar et harbo, vayishlefam et tahara, vayemot et tout. Vaïchot ba et rocho, vaïrou apelishtim ki med giboram vaïanoussou. David courut, se tint sur le Philistin, il a pris l'épée du Philistin, l'a dégainée de son fourreau, l'a achevée, lui a coupé la tête, il a pris la tête. Ouais. Les Philistins virent que est mort leur héros. Ils ont fui. Vaya kumu anche Israël ve Yehuda vaya riu ver deux fois et apelishtim ad boacha ge ve ad share ekron va yiplu chalele pelishtim bederer sharaim vad gat vad ekron. Se sont levés les enfants, les gens d'Israël et de Judée. Vaya riu, ils ont soufflé la fanfare. Ça vaya riu, hein, vous comprenez? Je refais pas, c'est inutile. Hein. C'est ça ce que c'est. Vayariou, c'est Teroua, ils ont soufflé du chauffard, ils ont soufflé de la trompette. Voilà. Ils ont soufflé de la trompette, la fanfare, ils ont poursuivi les Philistins jusqu'au guet et jusqu'au port de Ekron. Les cadavres des Philistins sont tombés sur le chemin de Shaaraïm et de Gath jusqu'à Ekron. Vayashuvu bené Israël. Midlok arare pishtim, vaya chosu et machaneh. Les enfants d'Israël sont revenus de la poursuite après les Philistins. Et ils ont pillé le camp des Philistins. Oui, puisqu'ils ont fui les Philistins. Le camp des Philistins était vide. Donc toutes les richesses des Philistins, ils ont pillé. Verset Dalet, Nun Dalet, Vaikar David et Rosh Apelishti, Vayevi Yehu Yerushalayim, Vetkelav Sam Beoalo. David prit la tête du Philistin et l'a amené à Jérusalem. Sympa quand même. Ouais, c'est-à-dire que pour que tout le monde voit, merveilleux judaïsme. Hein, c'est beau. Alors, et il a pris les armes du Philistin, il a mis dans sa tente. Et nous arrivons au verset clé. Nun et. Vekirot Shaul et David, Yotse Likrat Apelishti, Amar el Avner, Sarat Sava, Ben Mise Anahar Avner, Vayomer Avner, Rei Ameler, Rei Nafshecha Ameler, Im Yadati. Je reprends. Quand Shaul vit David sortir vers le Philistin, il a dit à Avner, le chef de son armée, « C'est le fils de qui cet enfant, ce jeune homme, Avner ?» Et Avner dit, « Par votre vie, sire, je ne sais pas. » Alors ça, ce verset est incompréhensible. Commentaire de Rashi sur la base de la Gemara dans le traité Yevamot, d'Af Ayn Vav, verset incompréhensible, puisque je vous ai rapporté que Shaul connaissait bien David, puisque c'était celui qui jouait de la musique. Et le page qui avait conseillé à Shaul de prendre un musicien, lui avait dit, c'est le fils de Ishaï. Donc il le connaissait par cœur. Exactement.
Et ça, il a demandé avant le combat avec. C'était avant le combat avec Goliath.
Non, quand, le verset dit quand il a vu David partir. Et là, il a eu une angoisse. Alors. Mais, vous savez, quand on connaît bien les versets, on voit presque tous les scénarios. Hollywood, des romans, etc. C'est, ont des sources dans nos versets. Mais on ne connaît pas nos versets. C'est dommage, c'est trop super. Je reprends. Et quand il a vu Shaul, David, courir après le Philistin, il a dit à Avner, le chef de son armée, « Ben Mise Anahar, Avner, c'est le fils de qui, ce jeune ?» Et Avner dit, « Par votre vie, sire, je ne sais pas. » Verset qui ne veut rien dire. Verset suivant. « Vayomer Ameler, She'alata ben mise a Alem. » Le roi, oui, tout de suite. « Vayomer Ameler, » le roi dit, « Demande toi-même. » C'est le fils de qui ? À Alem. C'est quoi le mot Alem ?
Non.
Comment ?
C'est pas
un orphelin ? Non, il y a Tom. C'est quoi Alem ? Comment ? Il aime, avec un Aleph. Avec un Aïn, c'est quoi ? Comment ?
Disparu.
Très bien. Oui, pourquoi vous dites disparu ? Très bien, c'est disparu. Alors. Ce mot est très important. Ce mot est très important. Alors, la traduction mot à mot, et comme dit Raphaël, ça veut dire disparu. Mais en vérité, le mot alem veut dire adolescent. Alem ou alma au féminin veut dire adolescente. Et la racine du mot, ne'elam, c'est disparaître. Et il y a un mot très important en hébreu qui est exactement le même mot. C'est olam. C'est le monde. Parce que dans la conception de la langue hébraïque, le monde nous échappe. Le monde. Qu'est-ce qu'on arrive à avoir du monde ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on a du monde ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a du monde ? C'est, assez profond, faut dire. Qu'est-ce qu'on arrive à avoir? Est-ce qu'on arrive à attraper quelque chose du monde? Comment?
Il
nous échappe. Et le monde, olam, la traduction du mot olam veut dire échapper. Le monde veut dire échapper. Et ici, c'est extraordinaire, la langue hébraïque, c'est que l'adolescent, le mot en hébreu pour dire adolescent, c'est échappe. Il est parti. Il échappe. Nélam, il est parti. Il nous échappe, voilà, c'est ça. Il nous échappe. Mais le Talmud va demander, Rashi va rapporter, qu'il y a c'est bizarre, parce que dans le premier verset, le roi demande à Avner, qui est ce jeune homme, Nahar? Nahar veut dire jeune homme. Comment? Parce que ça, c'est de la racine du mot Er, qui veut dire se réveiller. C'est la jeunesse qui se réveille. Nahar, c'est le jeune qui s'éveille. Nahara, c'est la jeune fille. Et en vérité, Alem, c'est un synonyme, mais le texte devrait dire deux fois la même chose, soit Nahar, Nahar, soit Alem, Alem. Comment ça se fait qu'une fois c'est Nahar et une fois c'est Alem? Verset suivant, regardons la suite. Donc il y a une anomalie dans le texte. Verset suivant, et ça c'est trop beau. Ou que chouf David, mais à côté est à Pelishti, va ikaroto Avner, va yevieu l'ifne Shaoul, verosh à Pelishti beyado. Et quand David est revenu d'avoir frappé le Philistin, Avner le prit, l'amena chez Shaoul, quand il avait encore la tête du Philistin dans sa main. Et regardez ce verset en alexandrin. Va yomer elav Shaoul, ben mi ata anahar, va yomer David, ben avdecha ishai betalachmi. Shaoul lui a dit, fils de qui es-tu jeune homme? David lui a dit, fils de ton serviteur Ishaï de Bethléem. Tantantantantant, the end. Voilà. Musique de Vangelis. Voilà. Alors.
Tout ce temps-là, David, il se rappelle qu'il a été loin.
Qu'il... Ouais, il sait tout ça. Il sait. Alors, regardez. C'est quoi ce dialogue? Regardons le commentaire de Rashi. Alors, Rashi fait l'exploit, en quelques lignes, de synthétiser un grand passage du Talmud, dans le traité Yevamot. Ben misé anahar. Qui est cet enfant? Amrou rabotenu, nos maîtres disent. Vechi lo ayam akiro. Et ne le connaissait-il pas? Valo ketiv, va yeviu meod, va ilo no sekelim. Mais plus haut, c'est dit, il l'aima énormément et c'était son écuyer. Donc il le connaissait parfaitement. Quelle est cette question? Qui est-il? Et là, raeu mitnaeg betarsise malchut. Il a vu une dimension royale dans son attitude. Le verset dit, quand il vit David courir vers le Philistin, il y avait une énergie, une détermination royale chez David. Et il s'est dit, et là, il a commencé à paniquer. Alors, je vous fais oralement la suite de Rashi. Parce que, il y avait, vous savez, un grand débat dans les enfants de Jacob. Nous savons tous que les frères, d'abord, ont voulu tuer Joseph, et ensuite, plutôt que le tuer, ils l'ont vendu en esclave. Mais on se pose toujours la question, comment des gens de si bonne famille ont-ils été de tels sauvages? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi cette histoire? C'était quoi cette histoire de tuer leur frère Joseph? L'explication que j'ai entendue sur ce sujet, explication qui me paraît rendre compte profondément du sujet, c'est qu'ils savaient, les fils de Jacob, qu'ils allaient mettre les bases du futur peuple juif. Il y avait un débat, qui aurait le leadership dans le peuple juif? Qui serait le chef du peuple juif? Quelle tribu serait la tribu royale dans le peuple juif? Joseph disait, c'est moi. Et les frères disaient non. Non. Pourquoi non? Parce que les enfants de Rachel étaient, si on peut s'exprimer ainsi, trop sadiques, trop justes. Et eux, ils ont dit non. C'est la tribu de Yehuda, de Juda, qui aura le leadership. Et Joseph y rajoute, non, ça va être moi. Deuxième rêve, ça va être moi. On dit, bon, ok, tu te la fermes, sinon, frangin, on te bute. L'explication que j'ai entendue, c'est que Joseph était trop exigeant. Or, pour avoir le leadership, il faut une dimension, certes, de quelqu'un de valeureux, de juste, de tzaddik, mais qui a une dimension plus de compréhension, plus humaine des choses, plus proche des gens. Et ça, c'était Juda, c'était Yehuda. Et il pensait que si ce serait Joseph, la tribu qui a le leadership, ça mettrait en danger tout le peuple juif. Ils ont dit, tais-toi une fois, tais-toi deux fois, trois fois, on te bute. Voilà. Alors, ok. Mais Shaoul est descendant de Benjamin, c'est-à-dire aussi des enfants de Rachel. Donc, Shaoul était, on pourrait dire, le mot Shaoul veut dire emprunté. C'était une royauté momentanée. Momentanée. La vraie royauté viendra de Juda. Mais Yehuda a eu deux fils, Zérar et Pérez. Deux fils. Un fils qui s'appelle Zérar. Zérar, ça veut dire luire, rayonner. Et un fils qui s'appelle Pérez. Pérez, ça veut dire jaillir. Et la tradition était que le futur roi d'Israël descendrait de Pérez, qui veut dire jaillir. Pas illuminer. Zérar, ça veut dire illuminer. Mais Pérez, c'est jaillir. Et quand il a vu David, qui est de la tribu de Yehuda, de Bethléem, c'est en Judée, quand il a vu David courir, il a dit, ça, Perlipopette, c'est lui le futur roi. Alors là, il a vraiment paniqué. Il a vu, c'est lui le futur roi. Jusque-là, il savait qu'il était évincé, mais il ne savait pas qui va être le roi. Mais quand il a vu David courir, il a dit, ben misé à Ilem, ben misé à Nahar, ben misé à Nahar. Qui est ce jeune homme? C'est-à-dire, est-ce qu'il est de la famille de Zérar ou de la famille de Pérez? Ça, c'est la question. Il le connaissait. Il savait qu'il était de la tribu de Yehuda. Il savait qu'il était de la famille de Ishaï. Il savait qu'il était fils de Ishaï, de Yehuda. Mais la famille de Ishaï, est-ce qu'ils sont de Zérar? Est-ce qu'ils sont de Pérez? Il a dit, il est de Pérez, j'en suis sûr. C'est horrible. C'est sûr, il est de Pérez. Je le vois, je le sens. Va te renseigner, Avner, va te renseigner. Et alors, ici, la réponse est Vayomer Ameler. Le roi lui a dit Shal Ata Ben Mise Alam. Ça veut dire, qui est celui qui m'échappe? Parce que là, il y a eu un problème. Rashi explique. Nous avons vu au début de notre étude que quelqu'un qui vient de Moab, s'il se convertit, ne peut pas se marier avec quelqu'un né juif. Et alors, il y a un petit malin qui s'appelle Doeg. Il a dit, mais sire, plutôt que poser la question, est-ce qu'il est de Zérar ou de Pérez, demander, est-ce que fondamentalement, il peut devenir roi? Parce que c'est écrit dans la Torah, « Lo yavo amoni moavi bekal Hashem ». En vérité, moi je vous dis que le mariage de ses grands-parents était illicite. Le mariage de ses grands-parents était illicite. Les grands-parents de David, plutôt arrière-grand-père de David. Boaz n'avait pas le droit d'épouser Ruth. Parce que Ruth venait de Moab. Elle s'est convertie, elle s'est mariée avec quelqu'un de la tribu de Yehuda. Or, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit la Bible, le Pentateuque même, c'est écrit de le Pentateuque que quelqu'un qui vient de Moab ne peut pas venir dans l'Assemblée de Dieu. En vérité, pourquoi vous vous faites du souci? Mais c'est un bâtard! C'est un bâtard! Non, elle était mariée avec les fils de Elimelech en tant que non-juive. Mais après, quand elle viendra à Bethléem, elle se convertira et se mariera après conversion avec Boaz. Au début du rouleau de Ruth, elle s'était mariée avec un juif en tant que non-juive. Mais en vérité, c'est un débat dans le Zohar. Mais la conclusion, c'est qu'effectivement, elle s'était mariée en tant que non-juif avec un juif. Ce juif est mort. Noémie est revenue, elle l'a suivie à Bethléem, et à Bethléem, elle est devenue juive. Ensuite, elle s'est mariée avec Boaz. Mais là, il dit, mais sire, pourquoi vous vous faites du souci? Mais ce petit freluquet, il ne pourra jamais être roi. Le mariage de ses arrière-grands-parents était illicite. C'est écrit dans le Pentateuque, page 328. Il dit, le Moabite ne viendra pas dans l'Assemblée de Dieu.
Donc David, c'est un mamzer.
Comment? C'est pas vraiment mamzer. C'est pas mamzer. Mais dans une certaine mesure, ça aurait le même statut. Et c'est ça, c'est écrit à Alem. Alors, le Talmud répond, demande si Rachid ne rapporte pas. Regardez. Là, Rachid, Nunvav. Shal ata ben zé à Alem. Demande-toi qui est à Alem, celui qui nous échappe ici. Lema la ketiv anahar. Vekan ketiv à Alem. Plus haut c'est écrit le jeune homme et maintenant l'adolescent. Pourquoi ce changement de langage? Amarlo, alachazo nitalma mimcha. Cette loi nous a échappé. Se veshal bebata midrash. Va demander dans la maison d'études. Et dans la maison d'études, on apprend la tradition orale que nous avons du Sinaï, que quand c'est écrit, ne viendra pas le Ammoni ou le Moavi, c'est l'homme de Moab. Mais la femme, la Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite. La tradition orale nous dit, ce ne sont que les hommes de Moab. Ce sont que les hommes de Moab et que les hommes de Ammon. Mais les femmes peuvent se marier tout de suite. Pourquoi? Le Talmud argumente là-dessus. Parce que on leur a le verset les pénalise par le fait qu'ils ne sont pas allés à la rencontre sympathiquement du peuple juif. Or, qui a l'habitude d'aller à la rencontre de l'étranger? Ce sont les hommes et pas les femmes. Pourquoi, comme dit le verset dans Michelet, les proverbes de Salomon, « Kol kevuda bat meler penima » la gloire de la fille du roi et la discrétion. Donc les femmes n'étaient pas pénalisées. La tradition orale nous dit que les femmes ne sont pas pénalisées. Et comme ça, on peut expliquer, comme première explication, pourquoi les sages ont institué de lire l'histoire de Ruth à Shavuot, pour nous dire qu'il y a le don de la Torah, mais le don de la Torah a deux aspects. Il y a la tradition, il y a le texte de la Torah, Mais le texte de la Torah, s'il n'est pas accompagné de la tradition orale, on ne peut pas vivre. C'est Torah, c'est Zman Matan Torah Tenu, c'est le don de notre Torah. Quand on dit dans la prière, Chag HaShavuot, Zman Matan Torah Tenu. En vérité, c'est, je traduis, Shavuot, le moment du don de notre Torah. Mais on devrait dire, c'est le moment du don de la Torah de Dieu. Pourquoi Zman Torah Tenu, de notre Torah? C'est parce que le don de la Torah, Dieu nous la donne à nous. C'est une Torah que nous pouvons vivre. Et cette histoire de David que nous venons de voir ensemble, on pourrait dire, est une parabole de notre existence à nous. David, c'est une parabole de notre vie. Notre vie, souvent, on dirait que on est des touristes dans notre existence. On vit des choses, mais on est, excusez-moi l'expression, un peu à côté de notre plaque. On fait des choses, on faut les faire, mais est-ce que vraiment c'est ça ce que nous, on a à faire dans notre existence? Est-ce que notre existence, on arrive à concrétiser quelque chose dans notre existence? Ça, c'est la Torah orale. C'est la Torah orale qui va nous aider à concrétiser ce que nous avons à faire dans notre vie, à vivre notre Torah. C'est comme David. David, s'il n'y avait que la Torah écrite, David, il est exclu. David n'a pas de place. David, c'est un pauvre type. David, il a des capacités dans l'existence, mais il ne peut rien faire, il est exclu. Il est exclu. La tradition orale nous dit, ok, mais c'est écrit Moavi, mais pas Moavite. La Moavite, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est la tradition orale va faire que David va pouvoir s'exprimer dans son existence, va pouvoir vivre quelque chose dans son existence. La Torah nous concerne, nous. Et ça, c'est quelque chose de presque général dans la Torah. Les non-juifs, à la suite des Sadducéens, le christianisme, à la suite des Sadducéens qui ont été influencés par les Grecs à l'époque du Second Temple, on dit non, la tradition orale, ça c'est les hommes. Ça c'est les hommes. Non, nous, on a confiance que dans la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu, ça n'existe pas la loi de Dieu. Dieu a donné la Torah aux hommes. Comment il a donné la Torah aux hommes? Par le biais de la tradition orale. S'il n'y a pas la tradition orale, c'est toi, on ne peut pas la vivre. C'est vrai, dans la Torah, il y a des principes. Par exemple, ne tue pas. Moi, j'ai entendu un de mes maîtres, quand on lit les 10 commandements, dans la lecture de la Torah, on dit « Lo tirtzar ». Ce n'est pas écrit « Lo tirtzar ». Ne tue pas, ça se dit « Lo tirtzar ». Mais quand on lit, moi je ne connais pas la cantillation, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un psik entre « Lo » et le tirtzar. Lo tirtzar. Non, tue. Ça veut dire que, en général, ne tue pas. Mais parfois, il faut. Ça dépend. Ça, c'est la tradition orale qui va nous dire quand oui, quand non. Prenons un exemple. Un sujet, l'avortement. Est-ce que la Torah permet l'avortement? Non. Rac. Interdit. Mais ça dépend. Ça veut dire, il y a des cas à analyser où il faut. Il n'y a pas un principe. Or, aujourd'hui, c'est très très significatif. C'est très significatif. Dans le catéchisme catholique, c'est dès la conception, c'est interdit. Dès la conception, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, la pilule du lendemain pour les catholiques, c'est interdit. Dans notre tradition, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est ça le travail de la Torah chez Béalpé, c'est ça le travail du Talmud, c'est ça notre tradition. Notre tradition, c'est le Talmud, c'est de rentrer dans les détails des choses pour arriver à vivre cette Torah. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si cet exemple va vous intéresser, mais moi, c'est, l'exemple m'a passionné. Les jours de Yom Tov, les jours de fête, les jours de Yom Tov sont différents de Shabbat. C'est très différent de Shabbat. En cela, grosso modo, les travaux interdits Shabbat sont les mêmes qu'on n'a pas le droit de faire à Yom Tov. Bien. Maintenant, il y a quelques différences. Ce qui est lié à l'alimentation, beaucoup de choses sont permises par la Torah. Par exemple, cuire quelque chose, c'est permis, ce qui est interdit Shabbat. Bien. Mais c'est permis à partir d'un feu qui existant avant Shabbat. Ok. Alors, nous, ce Pessah, il nous arrivait un truc qui m'a passionné. Je vous le dis comme ça, mais c'est le sujet. C'est le sujet, si je peux me permettre. Avant la fête, on a laissé sur la cuisinière à gaz un feu allumé et une veilleuse. Une veilleuse ? Ok. Le feu s'est éteint de la cuisinière. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ?
On prend la flamme de la veilleuse pour allumer.
Mais il y a un problème. Et on s'en est rendu compte en allant le faire, c'est que notre cuisinière, quand tu pousses sur le bouton pour mettre le gaz, ça déclenche la flamme électrique. Ça déclenche électriquement une flamme. Que faire ? Comment ? Oui, alors, je vais vous dire, il y avait 20 personnes à la maison. Non, ne mange pas, d'accord. Mais quand tu as 20 personnes à la maison, qu'est-ce que tu fais ? Et quand tu sens que, en l'occurrence, mon épouse me fait comprendre qu'il faut trouver une solution. Alors,
vous êtes en bon terme avec les voisins ?
Comment ?
Vous êtes en bon terme avec les voisins ?
Oui. Alors, non, très très bien. Alors, vas-y, analysons talmudiquement. Analysons de manière talmudique le sujet. Alors, une seconde. Non, ce que tu dis, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai le droit de demander Yom Tov ou Shabbat à quelqu'un qui n'est pas juif ? Non. Ah, voilà, vous voyez ? J'ai le droit de demander certaines choses. Alors.
Sans demander, mais il y en a
pas. Non. Oh là là, que d'ignorance. Excusez-moi, sauf votre respect. Bon, il y a des livres entiers sur l'éthique écrits là-dessus. Mais de manière synthétique. Je vous dis de manière synthétique. Toi, qu'est-ce que tu dirais, Jean ? Ça, c'est plein de sagesse. Alors, je vais vous dire. Comment analyser le problème ? Comment analyser le problème ? Demander... Alors, le truc, c'est comme ça. C'est que... On avait un repas. Le repas était fait. Il fallait faire rissoler les pommes de terre. Ouais. C'est-à-dire des pommes de terre cuites. Ouais. Et des pommes de terre rissolées, c'est deux univers. Nous en conviendrons. C'est pas du tout la même chose. Donc le menu était des pommes de terre isolées. Donc finalement, on n'aurait pas été mort de faim si on n'avait rien fait. Mais il n'y eut point le petit sympathique de la chose. Alors donc, demander à quelqu'un de pas juif de faire un travail qui serait pour un juif interdit d'après la Torah, oui. Parce que, d'après le Chazon Ish, d'après un grand maître contemporain qui est décédé il y a peut-être 60 ans, mais disons, on appelle ça quand même contemporain, déclencher la flamme, comme c'est électrique, on peut considérer que c'est un travail interdit par la Torah. Comme il n'y a pas une urgence outre mesure, je n'ai pas le droit de demander à un non-juif. Mais j'ai vu que ça ne suffisait pas pour mon épouse. Alors j'ai cherché. « Et bon, Rachel, j'ai trouvé la solution suivante. Alors, je vous passe les détails légaux. Il y a un concept dans le Talmud qui s'appelle psychréché. Faire un travail qui déclenche un autre travail, je n'ai pas le droit de le faire. Il y a un travail permis, mais en le faisant, je déclenche quelque chose d'interdit. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais demander à un non-juif de le faire, oui, ça c'est permis. Je me suis souvenu que ça c'est permis. C'est-à-dire, en vérité, ce que moi je demande aux non-juifs, c'est le gaz. L'électricité, je m'en fous. C'est permis. Ça, c'est du Talmud. Eh bien, c'est le sujet. C'est ça qu'on a reçu au Sinaï. On a reçu au Sinaï la tradition orale, la manière, comment nous, êtres humains, on va vivre cette Torah. Dieu nous a donné au Sinaï les éléments pour vivre cette Torah. Et ça s'appelle la tradition orale, qui est véhiculée parce qu'il s'appelle le Talmud. Si on ne connaît pas les détails, si on ne connaît pas les détails légaux de la halakha, on ne peut pas vivre la Torah. La Torah, c'est comme dit l'autre, ouais, je raccroche et je saute. C'est invivable. La Torah, elle est invivable. Elle n'est vivable que s'il y a le vécu de la tradition orale. Et c'est ça ce que le prophète Shmuel, il a voulu en écrivant le rouleau de Ruth. Et c'est pour ça qu'on lit le rouleau de Ruth. Que même quelqu'un qui n'a rien à voir avec le judaïsme, quelqu'un même qui vient d'un peuple apparemment taré, pourri, laisse tomber, ouais, cette personne n'a rien à voir avec le judaïsme. Et même si elle se convertit au niveau premier, on lui crache dessus. Excusez-moi l'expression. Et bien finalement, en approfondissant le sujet, on voit qu'il n'y avait aucun problème pour sa conversion. Il n'y avait aucun problème pour qu'elle épouse le grand maître de la génération qui s'appelle Boaz. Et pas seulement ça, le verset dit que lorsque le roi Salomon a fait l'inauguration du temple, du premier temple, c'est écrit, le roi Salomon a mis un trône pour la mère du roi. Les sages demandent, dit, il a mis un trône pour sa mère. Comment s'appelait la mère de Shlomo?
Bathsheba.
Oui. Donc, le verset aurait dû dire, il met un trône pour sa mère. Oui. Pourquoi? Pour la mère du roi. Parce que le sujet, c'est Shlomo. Le roi met un trône pour la mère du roi. Ça fait un peu pour sa mère. Les sages disent non, pour la mère de la royauté. Et qui c'était? C'était Ruth. Ruth a vécu tellement longtemps qu'elle était à l'inauguration du temple par son arrière-arrière-petit-fils. Excusez-moi, comme on dit aujourd'hui, c'est un truc de ouf! C'est un truc incroyable! Et tout ça, quand les gens, en vérité, ils étaient prêts à jeter cette femme. Quand elle est venue, tout le monde disait, elle ne pourra jamais se marier avec Boaz. D'ailleurs, quand on voit dans le rouleau de Ruth, dans la Megillat Ruth, on voit que c'était un courage extraordinaire pour cette femme. Parce qu'elle sait, il y a des personnes qui se convertissent pour se marier. Mais elle, à la limite, c'était le contraire. Elle s'est convertie, elle savait pas du tout qu'est-ce qui va advenir d'elle. Son futur concret dans l'existence, c'était pas joué d'avance. Alors, Boaz, qui était le grand maître, c'était pas le Talmud à l'époque de la tradition orale. Lui, c'était le seul, il a compris. Mais moi, je peux l'épouser sans problème, cette femme. Aucun problème. Les autres qui n'étaient pas dans la tradition vraiment vécue de la Torah, ils disaient, ouais, qu'est-ce que c'est cette Goya, pouilleuse, Moab, ouais. On est raciste. Tout le monde est raciste. Je veux dire, quelqu'un, il dit, moi, je ne suis pas raciste. Que le premier pas raciste me jette une pierre. Je ne connais pas quelqu'un qui est pas raciste. On est raciste. Il faut travailler pour ne pas l'être. Et c'est, le verset a l'air d'être vraiment terrible. Quelqu'un de Moab arrive, dégage. Ici, la tradition orale, pas seulement dégage pas, mais elle est devenue la mère de la royauté. c'est elle qui a influé la concrétisation réelle de la Torah dans l'existence. C'est pour ça, c'est une des raisons, il y a d'autres raisons. C'est une première raison pour laquelle le prophète Samuel a écrit le rouleau de Ruth, pour authentifier le mariage de Ruth et de Boaz, et authentifier la place légitime du roi David. Et il me semble, dans notre tradition, on dit, on attend le Mashiach. Je suis persuadé que lorsque le Mashiach va venir, tout le monde va dire, oh, il n'est pas juif. Ah, ça, j'en suis sûr. Sûr et certain. Tout le monde va dire, lui. Ça n'est que la tradition orale qui donnera une possibilité à une concrétisation de ce qui s'appelle les temps messianiques. Oui.
Juste, il me semblait, c'est forcément faux parce que le fait est que c'est arrivé, mais David est considéré quand même comme un descendant de converti.
Oui.
Et il n'y a pas une mitzvah qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre pour son peuple un roi qui n'est pas qui n'est pas descendant de.
Très bien, absolument, tu as raison.
Et ça, Shaoul, il pense que c'est pas. Enfin, mais le fait est que c'est pas le cas.
Alors, une seconde. Oui, ça veut dire, quand on dit l'otoral, mais kerev achicha tassim alecha meler, l'otoral tassim alecha ishnochi ashterlo me achicha ou. C'est-à-dire que tu dois mettre comme roi quelqu'un de père et de mère juif. Oui, de père et de mère juif. Mais là, selon le nombre des générations, ça s'appelle que ses parents sont nés juifs. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la mère n'est pas juive, oui, ça c'est un problème. Qui est converti, ça c'est un problème. Mais là ça faisait plusieurs générations, il n'y avait pas de problème. C'est vrai, tu as tout à fait raison, hein, c'est une notion qui existe. Voilà, c'est première chose, je pense que ça c'est très très important, et c'est pour ça, moi je dis toujours aux gens avec qui j'étudie, que lorsque on a des questions dans la vie juive, il faut toujours poser des questions à des juges rabbiniques très compétents. Des juges rabbiniques très compétents. Je vous donne encore un exemple terrible. On a vu un exemple assez terrible, que un enfant adultérin, et Mamzer. Oui, ça s'écrit dans le verset. Et Mamzer. Dans ces questions, s'il y a des questions qui se posent sur des sujets, j'ai une histoire, mais je rends compte que je ne peux pas raconter des histoires qui se présentent à moi, elles sont trop délicates. Mais quand des questions se posent sur des sujets délicats, il faut toujours poser la question à des juges rabbiniques très compétents. Parce que quelqu'un qui n'est pas très compétent, il risque de dire « c'est pas possible ». Mais quelqu'un qui est un grand dans la Torah, qui connaît, je dirais, excusez-moi l'expression, tout, il y a des gens qui connaissent tout. Je connais des gens. Ici à Paris, ça traîne pas les rues, mais il y a des gens, à notre génération, on peut dire, j'ai un de mes maîtres que j'avais invité il y a quelques années, je lui avais dit, Rav, sur quel sujet, quel est votre sujet de prédilection sur lequel vous aimeriez intervenir dans notre yeshiva? Il m'a dit, les quatre parties du Shulchan Aruch. Les quatre parties du Shulchan Aruch. Il dit, c'est mes sujets de prédilection. Je connais, c'est quelqu'un, il connaît tout. Il y en a qui connaissent encore peut-être mieux, mais il y a des gens qui connaissent vraiment tout. Et quand il y a des questions, la question c'est pas, souvent les gens pensent que, oui, ah j'ai peur de me tromper, il faut que je demande à mon gourou parce que j'ai peur de faire faux. C'est pas complètement idiot, mais c'est pas le but. Le but c'est de savoir avec précision qu'est-ce que nous, on peut faire, on peut réaliser dans notre existence. Ça, c'est la Torah chez Béal Pé. C'est ça, la base de la loi dans la vie juive s'appelle Halakha. Halakha, c'est comment j'avance dans l'existence. C'est la capacité d'avancer dans l'existence. Ça, c'est la première explication que nos maîtres disent pour laquelle le prophète Shmuel a écrit le rouleau de Ruth et pour laquelle on lit le rouleau de Ruth à Shabbat. Suite au prochain numéro. Bye bye. Oui, non mais les Philistins envahissaient. Si vous voulez, il y a notre centre fait des brochures, si vous voulez prendre. Oui, c'est-à-dire, c'était la guerre, ils ont envahi.
Parce que là, il y a un mur, c'est une espèce de colline, c'est ça ?
Une colline, deux collines.
Et donc là, il y avait la colline d'Israël et la colline des Philistins.
C'est ça.
Et
je pense que tout était en Israël, si les Philistins avaient envahi, étaient rentrés dans le territoire des Juifs.
Donc quand vous dites le nom des Philistins,
c'est là où on était.
C'est en Israël.
En Israël.
Et Jérusalem, c'était plus loin.
C'était plus loin.
Quelqu'un,
tu vois, qui a vendu du vin.
Là, je vais essayer de...
Parce que tu es intelligent, c'est un handicap, mais tu es intelligent. J'arrive à un point où j'arrive même plus à ressentir la souffrance. Je ne ressens plus rien en fait. Je suis totalement inutile. Mais bon, enfin, ouais, bah, je m'applique un peu à ce que je veux faire, mais c'est vrai que.
C'est sympa que tu me
dises. Ouais, pas parce que j'ai confiance en vous, je sens les gens, c'est pour ça. Mais, et donc, je voulais savoir si dans la Torah et tout, il y avait des textes, des choses comme ça qui.
Salut.
Bah, qui parlaient justement peut-être de l'Irak, même avec. Les déficiences intellectuelles, est-ce que on peut... Enfin, s'il y avait des textes un peu qui parlaient un peu de ça, quoi. Enfin, ouais, je verrais, mais bon, voilà.